bienvenue à chacun dans notre grange. Donc l'après-midi va se dérouler en deux parties, avec le sujet général imitateur d'un Dieu fidèle, mais en fait c'est le sujet de la fidélité. J'ai pour mission de vous parler de la fidélité de Dieu et du Seigneur Jésus. Et mon frère Jean-Philippe Méchain vous parlera de la fidélité du croyant et jusque un petit peu de la fidélité dans le couple. Donc nous avons de quoi faire. Nous ne chanterons pas de cantique au début, parce que je trouve qu'il faut d'abord que nous soyons impressionnés par la fidélité de Dieu, et après nous la chanterons, cette fidélité, d'une façon peut-être un peu différente. Donc entre les deux présentations, nous chanterons deux cantiques ou deux portions de cantiques dans les reflets. On veut se recommander à Dieu pour ce moment d'abord. Dieu Père, nous sommes là devant toi avec un grand sujet, un sujet grandiose, infini comme toi, puisque la fidélité c'est un de tes attributs et tu es infini dans tous tes attributs. Alors Dieu et Père, impressionne-nous cet après-midi par ce caractère qui est le tien d'un Dieu fidèle, de telle manière que à notre tour, peut-être faiblement mais réellement, nous te soyons fidèles. Nous prenions comme modèle ta fidélité, si grande, si immuable. Viens nous en aide et même si nous n'allons qu'effleurer le sujet, nous soyons touchés profondément par ce caractère divin qui est aussi dans notre Seigneur Jésus. Et que tout soit pour ta gloire. Pour la gloire de Jésus, nous t'en prions. Amen.
Amen. Amen.
Donc le sujet de la fidélité, c'est un très grand sujet dans l'Écriture. Il y a beaucoup de références à la fidélité de Dieu dans la Bible, mais nous ne sommes pas là pour faire un catalogue, ni même faire une étude. Nous sommes plutôt là pour faire passer un message à ce propos. Peut-être pour commencer, je donne mon plan. Le sujet est immense, mais mon plan est très simple. Il se divise en deux parties. Je parlerai de la fidélité de Dieu, particulièrement par rapport à Israël, et de la fidélité du Seigneur Jésus, chef de l'Église, pour l'Église. En avant-propos, peut-être qu'il faut réfléchir d'abord un petit peu à la définition de la fidélité. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? On dit de quelqu'un qui est fidèle qu'on peut se fier à cette personne, se confier. Dans fidélité, il y a foi, comme dans confiance, comme dans fiancé. Les fiancés, c'est deux personnes qui commencent à se confier l'un à l'autre et qui commencent à être fidèles l'un à l'autre. Quelqu'un qui est fidèle, il tient sa parole, il tient ses engagements, il tient ses promesses. Et dans la pensée de la fidélité, il y a la persévérance. On l'emploie très fréquemment, les grandes surfaces vous donnent une carte de fidélité en pensant que vous allez persévérer. Vous n'avez pas forcément un contrat, mais voilà, il joue là-dessus. Ça suffit pour la définition. Maintenant, j'aimerais vous sensibiliser à l'importance de la fidélité de Dieu. D'abord, vous dire que notre foi repose sur trois piliers. La fidélité de Dieu, sa puissance et sa miséricorde. Et le tout réuni par son amour. On va retrouver ces trois piliers plus loin. Oui, j'aimerais vous sensibiliser d'abord à l'importance de la fidélité de Dieu pour nous. par une petite histoire à contrario. Il y a un fiancé qui dit à sa fiancée, tu m'attendras à telle gare, à telle heure, tel train, je serai là. La fiancée attend et il n'y a pas de fiancé à l'heure indiquée, au train indiqué. Il se rencontre quelque temps après, il se prend la tête entre les mains, il dit, ah, j'ai oublié le rendez-vous. Il n'a pas été fidèle à sa parole. Deuxième scénario, elle attend à la gare indiquée, à l'heure indiquée, au train indiqué, pas de fiancé. Il se voit quelque temps après et il dit, je n'ai pas oublié, mais je ne pouvais pas. Il n'est pas puissant. Deuxième pied. Troisième scénario, elle attend à l'heure indiquée, à la gare indiquée, pas de fiancé. Quelque temps après, il se revoit et il lui dit, je n'ai pas oublié, je pouvais, mais tu ne le mérites pas. Il n'est pas miséricordieux, vous avez compris qu'il ne s'aime pas. L'amour est sûrement réuni ces trois éléments. L'importance de la fidélité de Dieu. Un jour, un journaliste a discuté avec un homme d'église et dans la conversation, après un moment de conversation, le journaliste a dit à ce chrétien, « Et si jamais, au-delà de la mort, il n'y avait personne au rendez-vous ?» Et le chrétien a répondu, « C'est vrai, s'il n'y avait personne au rendez-vous au-delà de la mort, ça serait dramatique. Mais nous, les chrétiens, nous nous confions dans la fidélité de Dieu. » Vous voyez, la fidélité de Dieu, c'est pas léger. Il en va de notre destinée éternelle. En étudiant un petit peu le sujet de la fidélité de Dieu, j'ai remarqué que elle brille, cette fidélité, dans les moments de crise. C'était déjà un moment de crise quand Adam et Ève ont désobéi dans le jardin d'Éden. Qu'allait faire Dieu? Eh bien, il a amené Adam et Ève à la confession. Et tous les deux, ils ont dit, j'en ai mangé. Dès lors, Dieu fait une promesse d'un libérateur qui viendrait. Dieu s'engage, il engage sa fidélité. La route sera longue, très longue, jusqu'à Bethléem. Et elle sera jalonnée de la fidélité de Dieu à cette promesse. C'est cette route du jardin d'Éden à Bethléem que nous aimerions survoler. Dieu s'est engagé là, dans la première promesse de l'Écriture. Et puis on trouve ensuite, au chapitre 9, après le déluge, Dieu conclut une alliance avec Noé concernant la terre. Alors une petite parenthèse, fidèle aux habitudes, j'ai cherché à représenter le thème par des objets. Chaque année, j'essaie de faire cela. Et je n'ai rien trouvé de mieux que des anneaux enlacés. C'est l'alliance. Deux alliances. Et l'alliance avec Noé est la première alliance concernant la terre. Dieu promet que tant que le monde existera, il y aura l'été, l'hiver, le chaud et le froid, et qu'il ne jugera plus la terre par les eaux. Et même si on parle aujourd'hui du réchauffement climatique, je crois que malgré ça, nous sommes au bénéfice de cette sécurité de l'alliance que Dieu a faite avec Noé. Et que même s'il peut y avoir des perturbations, l'humanité tout entière n'est pas en péril pour autant. Ensuite, deuxième alliance dans laquelle Dieu s'engage, c'est avec Abraham. Et cette alliance, elle est très importante.
et elle est solide.
Et Dieu la réitère 7 fois. Et la 7e fois, au chapitre 22 de la Genèse, il jure. Et quand Dieu jure, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, une petite parenthèse. Instinctivement, et moi c'était pareil, nous pensons à la fidélité de Dieu par rapport à ses promesses. Mais c'est tout aussi valable par rapport à ses menaces. Parfois, Dieu jure en jugement. Et c'est pour ça que la fidélité de Dieu, c'est très précieux, mais c'est aussi solennel quand c'est en jugement. Parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit, et parfois c'est des paroles de jugement qui s'accomplissent. Dieu est fidèle, point. Il ne parle pas pour rien dire. Il ne parle jamais légèrement, ni pour les promesses, ni pour le jugement. Donc l'alliance faite avec Abraham, elle est inconditionnelle et elle va traverser les âges, envers et contre tout. Dieu va être fidèle à cette alliance. Ensuite, il y a l'alliance du Sinaï, que j'ai représenté ici. Et l'anneau, le gros anneau, c'est la fidélité de Dieu. Et le petit anneau, vous suspectez déjà qu'il est quand même relativement fragile. On va voir. On va voir s'il tient. Et ce contrat de fidélité entre Dieu et le peuple est un peu malencontreux. Pourquoi le peuple s'est engagé à tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Certes, il entrait aussi dans les voies de Dieu parce qu'il fallait que c'était... il fallait cette mise à l'épreuve, il était comme pour montrer la faiblesse de la nature humaine pour accomplir la loi de Dieu. Il avait un effet pédagogique, un rôle pédagogique. Et du côté de Dieu, cette fidélité, elle est sans faille. Et je crois que cette alliance à Horeb va de Horeb jusqu'à l'exil. Et on va voir ce qui se passe à l'exil. Et de Horeb à l'exil, cette histoire est jalonnée de pages très sombres d'Israël, d'incrédulité, comme le dit Paul. Ils ont été incrédules dans le désert. Ils n'ont pas cru la parole de Dieu qui leur promettait un pays ruisselant de lait et du miel. Une génération est tombée dans le désert par incrédulité. Il faut lire le livre des Nombres. C'est à partir du chapitre 11, il y a des pages très très sombres. La rébellion, la fornication, les murmures, etc. Face à la fidélité de Dieu que Moïse chante au début du Deutéronome et à la fin du Deutéronome. Alors, je vous lis au chapitre 7 du Deutéronome. Il dit à la jeune génération qui va rentrer, ils sont dans les plaines de Moab, chapitre 7, verset 9, « Connais donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est un Dieu, qui est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde l'alliance et la bonté jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment. » Le Dieu fidèle qui garde l'alliance. Vous voyez ? Et donc ce verset est intéressant parce que si on compte à peu près l'histoire de l'humanité, c'est moins de 150 générations. Et là, Dieu est fidèle pour 1000 générations, c'est-à-dire plus que toute l'histoire humaine possible. Et à la fin du Deutéronome, au chapitre 32, ce grand passage que nous connaissons par cœur, Moïse, c'est un vieillard de 120 ans, et dans son cantique, il dit « C'est un Dieu fidèle, il n'y a pas d'iniquité en lui, il est juste et droit. Moi, je le connais, je l'ai vu pendant 40 ans dans le désert, ce Dieu. » Ça n'a pas été facile pour Moïse, ces murmures du peuple et ce manque de foi, mais il a éprouvé la fidélité de Dieu. Ça, c'est une parole d'expérience. C'est un Dieu fidèle. Et ensuite, nous arrivons au temps de David avec une nouvelle alliance, ce qu'on appelle l'alliance davidique. Dieu jure à David de lui donner une semence à jamais sur le trône. Et ça indique cette gloire messianique du Seigneur Jésus comme le roi, comme le vrai fils de David. Dieu s'engage avec David. Et David chante aussi dans les psaumes la fidélité de Dieu. Par exemple, au psaume 36, il dit même que ta fidélité atteint jusqu'au nu. C'est en dire les dimensions. Les psalmistes ont chanté la fidélité de Dieu. Nous passons émus devant le psaume 40. Le psaume 40, les versets 8 et 9, nous montrent le ministère du Seigneur Jésus sur la terre. Et dans ce court résumé de son ministère, il dit à Dieu, « J'ai parlé de ta fidélité. » Alors là, c'est un filon à creuser de Jésus. Serviteur a parlé dans son ministère de la fidélité de Dieu. Il faut arriver au psaume 89. C'est dommage, je n'ai pas le temps de lire tous ces passages avec vous, mais vous les notez, vous les rechercherez à la maison. Il est des temps des Zrakites. Et cet homme avait dû faire une expérience forte de la fidélité de Dieu, puisqu'il en parle 7 fois. Dans ce psaume. Alors il faudra noter, vous lirez dans quelques temps vous pourrez, ce psaume 89 en entier, vous pourrez souligner ces 7 mentions de la fidélité de Dieu. On peut aussi penser à ce verset facile à mémoriser au psaume 100 et qui est très précieux pour nous, les grands-parents. Ta fidélité est de génération en génération. Dieu a été fidèle pour nos grands-parents, pour nos parents. Il sera fidèle pour notre génération. Il sera fidèle pour la génération de nos enfants et de nos petits-enfants et pour certains d'entre nous, de nos arrière-petits-enfants. Ta fidélité est de génération en génération. Il faudrait aussi aller dans le psaume 119, ou probablement d'Esdras, où il est parlé plusieurs fois de la fidélité de Dieu. Mais après David, l'état du royaume d'Israël se dégrade. Et il y a le schisme après Salomon, le royaume du nord, les 10 tribus, le royaume du sud, et ils vont de mal en pis, surtout le royaume du nord. Mais le royaume du sud, le royaume de Juda, finalement, ne vaut pas mieux. Il est rongé par l'idolâtrie, par l'incrédulité, finalement l'incrédulité à la base de tout. Et il y a des autels dans Jérusalem, il y a le sang innocent qui est versé. Enfin, c'est un triste spectacle que l'état du peuple de Dieu et les prophètes, les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel dénoncent cet état du peuple éloigné de Dieu. Ils abandonnent Dieu. Ils ne se souviennent pas de la fidélité de Dieu. Et on est tout près de l'exil. On est tout près de l'exil et au chapitre 31 de Jérémie, l'Éternel dit à Jérémie qu'ils ont rompu, quoique je les ai épousés, dit l'Éternel. Et Dieu aussi rompt cette alliance de son côté par infidélité. Par exemple, dans Ésaïe 54, Dieu dit « Où est la lettre de divorce de votre mère que j'ai renvoyée ?» Et dans Jérémie 3 aussi, il y a ce divorce. Et Dieu divorce d'Israël, comme le Seigneur Jésus le permettra plus tard, à cause de l'infidélité d'une partie. Et dorénavant, cette alliance est mise de côté. C'est fini. Il faudra une nouvelle alliance, dont celle d'Abraham est le modèle. Et pourtant, dans les temps de Jérémie, dans sa complainte à 5 strophes de Lamentations, dans la 3e strophe, cet homme souffrant dira « Grande est ta fidélité, l'Éternel est ma portion, dit mon âme, c'est pourquoi j'espérerai en lui. » C'est la fidélité de Dieu qui nous permet d'espérer quand tout va mal dans le peuple de Dieu. Bien sûr, il y a eu un petit réveil, un retour de la captivité, sous Zorobabel, Esdras, Néhémie. Comme ils étaient partis en trois fois, ils reviennent en trois fois. C'est, s'ils sont revenus, c'est un effet aussi de la miséricorde divine. Ils sont relancés par les prophètes, Agée et Zacharie, mais finalement, après, l'état du peuple se dégrade encore. Et l'Ancien Testament se termine par ce livre de Malachie dont on a dit que c'était le procès du formalisme. Et ce livre de Malachie se termine par ce mot « malédiction ». Et là, à ce moment-là, la question de Paul est pertinente. Encore, l'incrédulité, leur incrédulité des Juifs, annulera-t-elle la fidélité de Dieu ? Loin de là, 4 siècles plus tard. Enfin, 4000 ans après la première promesse, Jésus, la semence de la femme, naît à Bethléem de Judée. Et Marie, cette femme dont Dieu avait parlé dans le jardin, ne s'y trompe pas. Elle dit dans son cantique, qu'on a appelé le Magnificat, « Il a pris la cause d'Israël, son serviteur, pour se souvenir, selon qu'il avait parlé à nos pères, envers Abraham et envers sa semence, à jamais. » Pour se souvenir, c'est sa fidélité, premier pied. Deuxième pied, il a agi puissamment par son bras. Troisième pied, colonne, sa miséricorde est de génération en génération. Mais l'incrédulité d'Israël est toujours là. Alors qu'il y avait une manifestation extraordinaire de la fidélité de Dieu depuis des siècles en donnant Jésus, en accomplissant la promesse qu'il avait faite, voilà que les Juifs rejettent Jésus et le crucifient et le font crucifier par les Romains. Et après, ils rejettent encore le témoignage de l'Esprit dans Étienne. Dorénavant, il n'y a plus que le jugement qui s'est exécuté sur les Juifs en l'an 70. La nation juive est rayée de la carte du monde et les Juifs sont dispersés dans le monde entier encore aujourd'hui. Et là, la parole, la question de Paul est encore pertinente. Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu ? Loin de là. Après l'enlèvement de l'Église, Dieu reprendra ses relations avec son peuple coupable du rejet du Messie, le fera traverser la grande tribulation, il sera amené dans la détresse, qui est appelée aussi la détresse de Jacob, mais au sein de cette détresse, il se repentira et Dieu restaurera ce vrai Israël. Et là, nous avons des paroles qui sont dans les prophètes qui vont s'accomplir à ce moment-là. Pour, par exemple, Ésaïe 54, « Pour un petit moment, je t'ai abandonné. Avec de grandes compassions, je te rassemblerai. Quand les montagnes se seraient ébranlées, que les collines chancelleraient, ma bonté ne se retirera pas de toi. Et mon alliance de paix, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » C'est impressionnant. Et puis dans Osée aussi, tu me diras plus mon Baal, tu me diras mon mari. Il y aura de nouveau cette alliance, une nouvelle alliance, dit Jérémie 31. Non pas selon l'alliance du Sinaï, une nouvelle alliance pour eux, pas avec eux, comme la précédente, où il y a deux parties, il doit être fidèle, pour eux, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux aussi. Et donc, dans Osée aussi, je l'amènerai au désert, je lui parlerai au cœur, je lui donnerai ses vignes. Je lui donnerai la vallée d'accord pour une porte d'espérance. Il chantera comme dans les jours de sa jeunesse. Et cet Israël nouveau, bénéficiaire de la fidélité de Dieu à ses promesses, celles qu'il a dites par les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, eh bien, il entrera dans le règne du Messie. Et le règne du Messie sera, pendant 1000 ans, le témoignage de la fidélité de Dieu à son peuple. J'ai fini pour la première partie. La deuxième sera plus courte, mais elle sera peut-être encore plus importante. La fidélité du Seigneur Jésus par rapport à l'Église. Alors c'est le deuxième verset. Dans 2 Timothée, si nous sommes incrédules, lui demeure fidèle. On voit dans les deux passages que l'incrédulité fait face à la fidélité. l'incrédulité du côté d'Israël, de notre côté, du côté de l'Église, et la fidélité du côté de Dieu et du Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, est-ce que je m'adresse surtout à ceux qui ont étudié un petit peu l'histoire de l'Église pendant 20 siècles? Est-ce que vous croyez que cette histoire n'est pas aussi sombre que l'histoire d'Israël? Peut-être vous me direz, la foi a brillé dans l'histoire de l'Église. Ah oui, elle a brillé, ça c'est sûr. Elle a brillé déjà dans les apôtres. Elle a brillé dans les apôtres qui ont été persécutés par les Juifs. Elle a brillé pendant 250 ans de persécution romaine. Quand les chrétiens étaient déchirés par les fauves dans les arènes. Elle a brillé pendant tout le Moyen-Âge, dans ses témoins obscurs, dans ses vaudois du Piémont, dont l'histoire a à peine enregistré la trace. Elle a brillé dans les réformateurs, Wycliffe, Jean Hus, Savonarole. Elle a brillé dans les réformateurs. Elle a brillé dans les martyrs de l'Inquisition, quand pendant deux siècles, les bûchers ont flambé jusque dans nos régions. Et la foi brille aujourd'hui dans l'Église persécutée. Et la foi brille sur un lit d'hôpital, dans une maison de retraite, partout où des simples croyants se confient en Dieu, malgré. Oui, ceci est vrai. Mais tout cela ne peut nous amener à un optimisme béat. Tout cela ne peut boucher nos yeux sur la réalité des misères de l'Église. Et les misères de l'Église, comme celles d'Israël, ont commencé dès le début. Vous savez que les premiers problèmes dans l'Église, chapitre 5 et 6 des Actes, ont été à propos de choses matérielles. Mais ensuite, on a peut-être un concentré des misères de l'Église dans cette Église à Corinthe. Alors au chapitre 5, il y a un mal moral, la fornication. Au chapitre 15, il y a une hérésie doctrinale. Et combien il y en a eu dans l'Église? Et il y a un frère qui est un serviteur de Dieu qui a fait un peu le décompte macabre de toutes les misères de Corinthe, et il parle des 12 péchés de Corinthe. Et donc je vous en lis un petit peu de ces misères de Corinthe. Et c'est pas gai. 2 Corinthiens 12, querelle, jalousie, colère, intrigue, médisance, insinuation, enflure d'orgueil, désordre, fornication, impudicité. Des divisions à Corinthe, des ruptures de communion. Est-ce que tout cela, dites-moi, frères et sœurs, honnêtement, est-ce que tout cela n'est pas encore dans l'Église? Et jusque dans nos rassemblements, peut-être pas toutes les 12 au même endroit. Heureusement, elles étaient 12 à Corinthe. Parfois, nous avons honte de nos misères. Des divisions qui sont plus ou moins anciennes, qui ont été maquillées en séparation, mais elles n'en demeurent pas moins de tristes divisions, des ruptures de communion. Nous avons honte devant des chrétiens qui souffrent dans leur chair. Si un chrétien venait avec nous montrant sous sa chemise son dos lacéré, ou parce qu'il lui manque un membre ou sa figure défigurée lors d'un interrogatoire, nous aurions honte de parler de nos misères. Nous avons honte devant nos petits-enfants qui nous demandent des explications. Et surtout, nous avons honte devant le chef de l'Église. Alors là, se pose la question pertinente de Paul encore. Toutes nos misères, toutes les misères de l'Église, elles ne sont pas nouvelles, mais elles sont encore là. Ces misères qui nous font pleurer, pour lesquelles nous nous humilions devant Dieu, souvent, et ce n'est pas des mots. Eh bien, toutes ces misères de l'Église annuleront-elles la fidélité du chef? Nous laissons répondre Paul en deux Timothée, si nous sommes infidèles. Lui demeure fidèle, heureusement pour nous. Lui demeure fidèle malgré tout. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qui se passe. Alors, il y a une question. Comment cette fidélité immuable du Seigneur Jésus s'est-elle manifestée au cours des siècles et se manifeste-t-elle encore aujourd'hui? Très grande question qui demanderait une très grande réponse. Je me contenterai d'en ébaucher une petite. Cette fidélité du Seigneur Jésus, du chef de l'Église, envers son assemblée, envers son Église au cours des siècles et encore aujourd'hui, se manifeste et manifestée en ce qu'il a donné des dons. Éphésiens 4. Il est monté en haut. Il en met captive la captivité et il a donné des dons. Alors les uns. Et il l'a fait fidèlement. Pendant 20 siècles. Alors peut-être maintenant, les dons sont plus affaiblis. Un petit peu comme au temps des juges. Vous savez, tous les juges ont eu une infirmité. Peut-être le cas encore aujourd'hui. Mais n'empêche que le chef a donné et donne encore des dons. Et il les donnera jusqu'au bout. Peut-être ces dons ne sont pas forcément acceptés. Parce que Paul dit dans cet épître à Timothée, justement, que ils ne supporteront plus. Il viendra un temps où ils ne supporteront plus le saint enseignement et ils se choisiront, je paraphrase, des prédicateurs qui parlent plus de la paix et de la grâce que de la repentance. Peut-être que les dons, on dit il manque des dons, c'est peut-être plutôt qu'il y a des dons qui dorment. Parce que s'il manquait des dons, ça serait le chef qui serait en cause. Non, il n'est pas en cause. Il y a des dons qui dorment. Il y a des dons qui sont surchargés parce que les premiers dorment. Il y en a qui s'imaginent peut-être qu'ils ont des dons, mais ils n'ont pas celui qui... Ils s'imaginent à faux qu'ils ont un don et ils en ont un autre. Donc ils ne peuvent pas faire du bon travail. Il y a des dons qu'on ne développe pas. Il y a toutes sortes, peut-être, de désordres par rapport aux dons, de déséquilibre. Mais le chef a donné et donnera jusqu'au bout des dons. Nous devons toujours justifier le chef. C'est l'honneur que nous lui devons. La fidélité du chef de l'Église s'est manifesté au cours des siècles et encore aujourd'hui par le fait qu'il fait trois choses. Il fait trois choses selon Ephésiens 5. Premièrement, il sanctifie son assemblée parce que de tout temps, son Église est dans le monde et nous côtoyons le péché et le péché nous contamine sans que nous en ayons conscience et c'est lui qui nous lave par la parole. Deuxièmement, il nous nourrit. C'est différent. Il apporte une substance spirituelle, des éléments spirituels qui deviennent notre constitution propre, comme les aliments nous constituent. La nourriture, c'est une métaphore. Et troisièmement, il nous chérit. Il a chéri son Église et il l'a fait encore. Chérir dans le sens de consoler, encourager. Et dans les temps de persécution, combien l'Église a besoin d'être chérie, d'être encouragée, d'être consolée. Et encore aujourd'hui, de tout temps il y a eu des deuils, de tout temps il y a eu des souffrances. Et encore aujourd'hui, il y a bien des croyants, et peut-être parmi nous, qui sont chargés. Et jusqu'au bout. Et les chrétiens persécutés, moi je crois que les chrétiens persécutés sont l'objet des soins et de la tendresse particulière du Seigneur. Mais nous le sommes aussi, c'est lui qui fait ces trois choses. Alors, il le fait directement peut-être, quand Paul dit « Le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié », il n'y a pas d'intermédiaire. Et des fois, le Seigneur n'a pas toujours besoin d'intermédiaires. Et parfois, c'est par les dons. Et une seule chose est demandée à l'Église en Éphésiens 5, c'est la soumission. Il faut qu'elle soit soumise pour profiter de l'activité fidèle de son chef, de son mari divin. Sinon, elle n'en profite pas. Le Seigneur Jésus, chef de l'Église, aura été pendant 20 siècles et encore fidèle en ce qu'il aura et ce qu'il parle et qu'il parle à son assemblée. Apocalypse 2 et 3. Et vous savez qu'il reprend, il fait des reproches à 5 églises sur 7. Et c'est dans sa fidélité qu'il reprend. Il ne faut pas penser que la fidélité du Seigneur, c'est de nous caresser dans le sens du poil, de dire « tu as bien fait, ça va ?» Non, non. C'est sa fidélité qui nous parle, vrai. Mais il s'est aussi encouragé. Son église souffrante, son église persécutée, semblable à Smyrne, l'église de Smyrne de tous les temps, comme je le disais. Et il lui dit, ne crains pas les choses que tu vas souffrir. Je te donnerai la couronne de vie, la couronne des martyrs. Le chef, dans sa fidélité, sait le dire à ceux qui sont concernés. Mais il sait aussi parler, encourager à ceux qui ne sont pas forcément persécutés, à cette église de Philadelphie, qui n'a pas beaucoup d'apparence, mais l'église de Philadelphie de tous les temps, les deux ou trois réunis au nom du Seigneur, qui gardent sa parole, qui ne renient pas son nom, et qui connaissent un certain opprobre à cause de ça, même au milieu des chrétiens. Et il lui dit, tu seras une colonne dans le temple de mon Dieu. Ça, c'est un contraste avec l'insignifiance de cette église, aux yeux des hommes, ben, aux yeux des chrétiens libéraux. Mais la fidélité du chef, c'est aussi de s'adresser à Laodicée, une église libérale, qui n'a besoin de rien, ni des dons, ni du chef. Le chef est dehors. Et sa fidélité, c'est de s'adresser encore à cette église, mais il lui adresse aussi des menaces. « Je vais te vomir de ma bouche. » Sa fidélité, c'est aussi dans les menaces, pas seulement dans les poèmes. Alors, à 5 églises sur 7, le chef dans sa fidélité dit de se repentir. L'église, nos églises, est-ce qu'elles vont écouter la voix du chef, la voix fidèle du chef pour se repentir? Ça, c'est à voir. Et je crois que le vainqueur de chaque assemblée, c'est celui qui se repent. Et enfin, cette fidélité du chef, depuis 20 siècles, va encore se manifester, j'ai envie de dire une dernière fois, quand il se souviendra de sa promesse, qu'il a dit à ses disciples avant de partir, « Je reviendrai. » C'est une promesse. Et il va être fidèle à cette promesse quand il va redescendre du ciel et qu'avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, il va appeler les chiens. Un cri de commandement. Un peu comme ce cri de commandement qui a retenti pour un seul homme, Lazare. Lazare, sors dehors. Mais ça ne sera plus pour un seul, ça sera pour des millions de chrétiens de l'Église. Et il va peut-être dire, Église endormie, sors dehors. Par sa fidélité, sa puissance infinie, sa miséricorde. Parce que je ne pense pas que quelqu'un dise qu'il mérite l'enlèvement. Ça sera le dernier acte de sa grâce et de sa miséricorde. Et nous irons, alors, les vivants, la génération vivante sera changée et les deux phalanges iront à sa rencontre en l'air. La fidélité du chef. Je voudrais me recueillir un instant. Seigneur Jésus, nous nous humilions devant toi, le chef de l'Église, des misères de l'Église. Mais nous comptons sur ta fidélité immuable et parfaite. Amen.
Amen.
Donc nous pourrions chanter debout deux cantiques qui célèbrent la fidélité de Dieu dans les reflets le 52 et le 117. Alors, dans le 52, nous chantons seulement les deux premières strophes. et le 117.
Sur Abraham, sur Caleb, sur Dorcas, et puis sur Aquila, c'est Sila. Et puis, on parlera de la fidélité dans le couple, puisque c'était un des sujets aussi qu'on avait devant nous. C'est vrai qu'il y a peu de jeunes, et moi j'avais pensé que ça pouvait être aussi utile pour les jeunes, parce qu'on est dans un monde qui change les choses. Mais je pense que c'est aussi utile pour nous, dans la manière de bien comprendre cela pour pouvoir bien le transmettre aussi aux plus jeunes. Alors, dans la Bible, il y en a plusieurs qui sont désignés fidèles. Et le premier, c'est Abraham, même si on ne le voit pas tout de suite, puisque c'est Néhémie qui nous dit que Dieu avait vu qu'il était fidèle. Et à cause de cela, Dieu veut faire une alliance avec lui. Ensuite, on a Moïse, dont l'autorité est remise en cause par Aaron et Myriam. Et là, il y a Dieu qui dit « Moïse a été fidèle sur toute sa maison ». Et c'était justement sur un problème de famille que son autorité était mise en cause, puisque c'était à cause de son épouse Séphora, la femme éthiopienne qu'il avait mise. Voilà. Mais Dieu dit « Non, c'est pas à vous de regarder ça. Et moi, j'affermis le service de mon serviteur parce qu'il a été fidèle sur toute sa maison. » Alors, pour nous, ça a une conséquence. La fidélité dans notre maison est quelque chose sur lequel Dieu va pouvoir appuyer pour affermir le service de chacun. Ensuite, on retrouve des hommes qui sont cités, qui y sont fidèles et dont on n'a pas forcément les noms. Mais c'est ceux qui vont réparer les brèches de la maison de l'Éternel. Alors, c'est vrai que avec l'histoire de l'Église, le nombre de brèches n'a pas cessé d'augmenter. Eh bien, on a des hommes qui sont appelés fidèles dans le service qu'ils avaient pour réparer les brèches. Au temps de Joas, en 2 Rois 12. Alors, je vais citer hein, comme Lucien les versets. On ne les lira pas ensemble pour avoir du temps, mais c'est pour aider à la réflexion plus tard, pour chacun. Au temps de Josias aussi, ils sont appelés fidèles pour réparer les brèches. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont appelées fidèles, sans qu'on ait forcément leur nom. C'était pour la répartition des dîmes ou par la gestion des ressources financières. Eh bien, et c'est au temps de Josaphat. On a des hommes qui sont appelés fidèles, à qui, en fait, on remettait les choses pour qu'ils soient distribués, répartis. Et comme ils le faisaient fidèlement, eh bien, on ne mettait pas un commissaire au compte pour vérifier que c'était fait droitement devant Dieu. Donc la fidélité aussi dans ces choses pratiques. Comment je gère ce que Dieu me donne? Est-ce que je le gère fidèlement pour le service de Dieu? Au temps d'Ézéchias, et derrière, juste après, en fait, le peuple est fidèle, Ézéchias est fidèle, il y a un mouvement de fidélité dans le peuple, et derrière, Sanchérib arrive pour essayer de mettre à mal cette fidélité. Et c'est là que Ézéchias monte dans le temple, et puis il montre les coups. Voilà, il a conscience que les ressources ne sont pas en lui, mais toute cette démarche de fidélité, eh bien, elle se retrouve à travers le peuple, et elle se retrouve aussi dans le fait que, voilà, c'est Dieu qui va pouvoir répondre à toutes les attaques. Et puis, au temps de Néhémie, alors là, on a les noms, Anania, qui était le chef du château, en Néhémie 7, et puis on a Shélémian, Tsadok, Padaya, Anan, en nombre 13, et eux, ils étaient chefs des magasins. Donc, c'était un moment où le peuple était remonté, il y avait toute la gestion de cette nouvelle ville, et avec toutes les difficultés qu'on connaît à travers l'histoire de Néhémie, eh bien, il fallait des hommes fidèles pour assurer la bonne gestion de ce qui était nécessaire à l'installation et à la croissance. Alors ensuite, j'ai trouvé des exemples de personnes qui étaient fidèles pour être des témoins. Et au temps d'Ésaïe, eh bien, il y a Uri et Zacharie qui sont appelés pour être fidèles, pour témoigner. Ils sont appelés fidèles et leur mission était à l'époque de témoigner avec Ésaïe. Au temps de Daniel, eh bien, sa fidélité va être mise à l'épreuve de ses ennemis. Et parce qu'il était fidèle, alors il ne trouve pas d'accusation contre lui. Donc la fidélité dans notre travail séculier, c'est aussi quelque chose dont Dieu a besoin, entre guillemets, je mets des guillemets, parce que si on peut être fidèle, c'est parce que Dieu nous aide. Mais en même temps, eh bien, voilà, c'est quelque chose qui donne de la force à ce qu'on croit, à ce qu'on peut transmettre, au témoignage qu'on peut donner. Ensuite, on arrive dans le Nouveau Testament, et puis là, aux surprises, il y a l'apôtre Paul qui dit, voilà, Dieu m'a trouvé fidèle et il m'a confié un service. Mais les personnes qui sont appelées fidèles, c'est pas les plus connus. Hier soir, on a eu cette magnifique réunion sur Marie de Magdala. On a très peu de passages sur Marie. Et sur ces personnes qui sont nommées fidèles, des fois, on n'a qu'un seul passage. Alors, il me semble que là, Dieu nous dit, voilà, n'ayez pas peur. C'est pour chacun d'entre vous. Ce n'est pas les apôtres que je nomme fidèles. Pourtant, ils ont accompli fidèlement la mission qu'ils avaient reçue. Il n'y a pas de doute sur ce point-là. Mais les personnes qui sont appelées fidèles, eh bien, c'est ceux qui sont cités, entre guillemets, à la marge, c'est pas que... Mais, voilà, on a très peu de choses pour. Alors, il y a Épaphras, qui est nommé en Colossien. Et il est nommé à d'autres endroits, mais en Colossien, sa fidélité. Et on trouve ça en lien avec son intercession. Il est fidèle pour intercéder. L'intercession, c'est quelque chose de fondamental. Voilà, la respiration d'une assemblée, ça passe par la réunion de prière. Et donc, voilà, la fidélité d'Épaphras, elle ressort pour cela. Il y en a qui sont nommés fidèles pour enseigner, comme l'apôtre Paul, je viens de le citer, donc, dans 1 Timothée 1, et au verset 12, il dit « Je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié, de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service. » Et puis, il y en a d'autres qui sont fidèles pour vous transmettre ce qu'ils ont reçu. C'est Timothée. C'est pourquoi je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, et qui est fidèle dans le Seigneur. Il vous fera souvenir de mes voies en Christ, selon que j'enseigne partout dans chaque assemblée. 1 Corinthiens 4, verset 17. Donc la fidélité pour transmettre. Et puis il y a Tychique et Onésime qui sont cités ensemble dans Colossiens, et Tychique qui est cité tout seul, et lui il est cité deux fois comme étant fidèle. Alors une première fois c'est « Afin que vous sachiez ce qui me concerne, comment je me trouve, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle serviteur dans le Seigneur, vous fera tout savoir pour transmettre les nouvelles des uns aux autres. » Alors on est dans un monde de communication et puis on peut avoir tout un tas de moyens maintenant. Alors avant, il y avait le courrier, le téléphone et puis maintenant ça se multiplie. Hein. On a Facebook, les mails et puis maintenant c'est Instagram. Enfin, vous devez en prendre les noms par vos petits-enfants. Mais en fait, ça n'arrête pas de changer. Et en fait, plus on pense être dans la communication, plus ça cloisonne les gens. Parce qu'il y a des gens, si je leur envoie un SMS comme ils ne le regardent pas, ils ne vont pas recevoir. Il faut que je leur écrive sur leur page Facebook. Mais ceux d'autres, c'est sur leur page Instagram, ou par Twitter, et ainsi de suite. Donc chacun a son mode de fonctionnement privilégié. Et si j'en utilise un que les autres n'utilisent pas, je n'arrive pas à rentrer en communication. Et bien là, Tychique, il était là pour transmettre des nouvelles et il utilisait le bon moyen. Donc, nous aussi, on est appelés à être fidèles pour transmettre les nouvelles les uns des autres. Et les nouvelles, c'est pour la santé, pour que les autres puissent penser ce que l'apôtre Paul, il demandait les prières de ses frères et sœurs. Et c'est pas pour comporter les ragots. Onésime, eh bien, avec Tychique, ils sont tous les deux cités à la fin. Tychique, le bien-aimé frère et fidèle serviteur et compagnon de service dans le Seigneur, vous fera savoir tout ce qui me concerne avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de toutes choses ici. Voilà, pour transmettre, pour faire que chacun puisse se réjouir de voir comment la croissance se passe, ce qui est le développement. Et je crois que ça, c'est aussi important. Et puis, en fait, il y a le dernier qui est cité, c'est Sylvain. Alors, Sylvain, il a servi avec l'apôtre Paul. Mais là, c'est Pierre qui le cite. Je vous écris brièvement par Sylvain, qui est un frère fidèle. Voilà, à l'époque, évidemment, le courrier était transporté. Et donc... Ah oui, excusez. Le courrier était transporté et donc... Voilà, il fallait quelqu'un qui le porte, quelqu'un dont on était sûr qu'il allait bien le remettre. Eh bien, voilà, Sylvain, il joue ce rôle. Alors, Timothée, on a vu qu'il avait cette mission de transmettre, et l'apôtre Paul lui dit, mais va plus loin. Sois le modèle des fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Non seulement transmettre, mais être un modèle. Faire ne pas dire « fais ce que je te dis et pas ce que je fais », mais bien être un modèle sur lequel eh bien, le témoignage et la transmission de ce qu'on a apporté va pouvoir se fonder et être crédibilisé. Voilà le rôle de Timothée. Alors on sait aussi à un autre endroit que l'apôtre Paul lui dit « mais transmet ces choses comme à des hommes fidèles, capables aussi d'enseigner les autres ». Et donc, on a, depuis, alors il n'y a pas 150 générations, puisque, mais depuis le départ de la mort du Seigneur, il y a toujours eu des fidèles qui ont transmis aux autres, qui étaient capables de transmettre à la génération suivante. Et donc, voilà, notre rôle, c'est aussi ça. Et puis, il y a être fidèle pour prendre soin. Et c'est Gaius. Gaius, l'apôtre Jean lui dit « Tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais envers les frères, et cela envers ceux-là même qui sont étrangers. » Voilà. Pas de différence. Même avec ceux avec lesquels, des fois, on a des problèmes de compréhension, parce qu'on n'a pas tout à fait la même culture, parce qu'il y a des habitudes qui peuvent nous surprendre, et puis qui pourraient entraîner un jugement en disant « Ben attends, nous, on n'a pas compris les choses comme ça. » Et donc, non, voilà. Gaius, eh bien, il était fidèle parce qu'il avait agi fidèlement et envers tous les frères. Donc, pour nous, c'est... Et puis aussi, il y a un autre aspect, c'est que Gaius, il avait fait la conduite. Alors, c'est vrai que maintenant, on a tous des systèmes de navigation, et puis on nous donne une adresse et on se débrouille. Mais en fait, quand il y a quelqu'un qui vous accompagne, ça vous évite de vous poser des questions, de vous perdre. Et puis, ça permet aussi des entretiens. Eh bien, voilà, c'était ce qu'avait fait Gaius. Et alors, une chose qui est surprenante, c'est que, en fait, fidèle, c'est pas seulement juste pour quelques personnes qui sont citées, mais c'est un statut. Je suis chrétien, et donc, par définition, je suis fidèle. Vous êtes saint. Et pourtant, quand je regarde dans ma vie, voilà, c'est mon statut. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de passages du Nouveau Testament. Les fidèles. Voilà. Il y avait Timothée, hein, il était appelé à être le modèle des fidèles. Voilà. Donc, tous les frères de l'époque étaient parfaitement, et les sœurs étaient parfaitement fidèles. Je dis avec un petit sourire, ça. Toutes les générations, c'est pareil. Mais voilà. Donc, des fidèles, c'est le vocable. Et donc, tendons vers le fait que ce qui est notre statut soit en cohérence avec nos actions. Alors, il y a une dernière chose sur laquelle je voudrais venir, c'est que, en parcourant pour présenter ce sujet, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que il y a des personnes qui sont fidèles, et puis il y a une chose qui est fidèle. Alors, ça m'a un petit peu interpellé, je vais vous lire le verset. C'est dans les Proverbes, au chapitre 27 et au verset 6. « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. » Dans notre traduction, c'est « son fidèle. » « Mais les baisers de l'ennemi sont trompeurs. » Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Alors, des fois, on est blessé par les remarques, par ce que peut nous dire un tel, la remarque, un tel ou un tel. Est-ce que je considère mes frères et mes sœurs comme des ennemis ou comme des amis? Et si je les considère comme des amis et que j'ai ce postulat, alors peut-être ce qui va me blesser dans ce qu'ils vont me dire, eh bien ça va m'aider à grandir. Et avec le Seigneur Jésus, en voyant le Seigneur Jésus à travers eux, eh bien je vais pouvoir comprendre que peut-être ces blessures que je n'aurais pas aimé avoir, eh bien elles vont être fidèles parce qu'elles vont m'aider à me nourrir, à grandir. Et dans l'hébreu, le mot qui était utilisé pour fidélité, pour fidèle, dans ce passage-là, eh bien, il a, d'après les caractères Strong, hein, moi je ne connais pas l'hébreu, il est en lien avec nourrir et soutenir, comme un pilier ou comme un support de porte. Les blessures d'un ami sont fidèles. Alors maintenant, j'arrive à la deuxième partie. Voilà, Abraham, eh bien, Voilà. Il faut attendre Néhémie pour savoir qu'il avait été considéré comme fidèle par Dieu. Et si on lit ces versets, c'est dans Néhémie 9 au verset 8. « Et tu trouvas son cœur fidèle devant toi, et tu fis avec lui une alliance pour donner le pays de Canaan, du Héthien, de l'Amoréen, du Phérésien, du Jébusien, du Guergasien, pour le donner à sa semence. » Le donner, lui donner le pays, et pour lui le donner à sa semence. Et déjà là, il y a cette notion de transmission. Et la fidélité d'Abraham, il y a cette alliance qui en découle. Mais il y a une autre chose qui me paraît bien plus importante. C'est que ça crée une relation entre Dieu et Abraham. Et à un moment, Dieu va dire, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» C'est au moment du jugement de Sodome et Gomorrhe. Dieu n'était pas obligé de partager ça avec Abraham. Il n'était pas obligé. Mais, voilà, la fidélité d'Abraham fait que Dieu va partager avec lui. Et quelle est la conséquence? Pourquoi Dieu nous dit, pourquoi il le fait? Voilà, je vais lire, hein, c'est dans Genèse 18. Et l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, puisqu'Abraham doit certainement devenir une nation grande et forte, et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre ?» Car je le connais et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour pratiquer ce qui est juste et droit. La révélation de ce secret, entre guillemets, de Dieu avec Abraham, c'est parce qu'il sait qu'il va transmettre à ses enfants pour qu'ils marchent dans ce qui est juste et droit. Et qu'est-ce que cela change ? Pour Abraham, eh bien, ça le rend pour devenir intercesseur. Alors, on avait vu que Epaphras était un intercesseur. Et il me semble que là, on retrouve ce que Dieu attend de nous. La fidélité qui nous permet de rentrer dans les conseils de Dieu, qui nous permet d'avoir cette révélation, de comprendre plus loin que ce que nous, on voit nous-mêmes pour devenir des intercesseurs. Alors intercesseur pour ceux qui nous entourent, mais intercesseur aussi pour ce monde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et donc, est-ce qu'on va, comme Abraham, prier et puis négocier, entre guillemets, avec Dieu en lui disant, bon, 40, et puis 10, et voilà. Eh bien, voilà, je crois que c'est ce que Dieu attend, transmettre à nos enfants, transmettre à ceux qui vont suivre et être des intercesseurs. Alors après, je prends l'exemple de Caleb. Il n'était pas dans la liste des gens, des personnes qui sont marquées comme étant fidèles. Mais il me semble que sa vie nous montre qu'il a été fidèle. On a parlé de cette alliance avec le peuple qui était dans le désert et puis qui n'a pas cru, qui a été infidèle. Et du coup, ils sont restés 40 ans de plus. Et c'est à ce moment-là, Caleb, il est un des acteurs principaux de ce moment-là. Ils étaient 12 à avoir été choisis pour devenir des espions. Ils sont 12 à monter. Ils sont 12 à revenir en disant « Oui, le pays qu'on a vu est réellement ruisselant de l'été de miel. » Donc la promesse que Dieu nous a faite, elle est bien là, c'est la vérité. Il n'y en a que 2 qui disent « Il faut monter. » Et ils sont certains, mais en même temps, ils ont conscience de la grandeur de Dieu. Alors, dans Nombre 14, eh bien, on a ce passage. « Si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays-là et nous le donnera, un pays qui ruisselle de lait et de miel. » Alors, ce n'est pas du doute qu'ils ont. Mais voilà, Dieu, il est prêt à faire et eux, ils sont prêts à s'inscrire. Est-ce que le temps de Dieu peut changer? Ben oui, il va le prouver puisqu'ils vont rester 40 ans dans le désert. Donc, mais si, effectivement, le plan est changé, ça n'empêche pas qu'il continue à faire confiance à Dieu. Et on va le voir. Alors, Dieu honore cette foi. Hein. Juste à la fin de ce chapitre, au verset 40, il dit, voilà, vous ne rentrerez pas dans le pays touchant lequel j'ai levé ma main pour vous y faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Et alors, Caleb, avec Josué, ils vont voir toute la génération qui va passer pendant 40 ans, 38 ans, ils vont tourner dans le désert. Toute la génération va passer. Et puis, ils vont rentrer dans le pays. Il va y avoir la conquête du pays. Et là, arrive le moment où on va faire des lots et on va les tirer au sort, comme Dieu l'avait dit. Alors, là, il y a Caleb, il rappelle. Moi, j'avais une promesse. Hein. Dieu m'avait dit, là où tu as été, je te le donnerai. Donc, moi, j'ai confiance en Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit, donc, en Josué 14 ? Je suis encore aujourd'hui fort comme le jour où Moïse m'envoya. Il a 85 ans, il avait 40 ans, eh bien, il est fort à 85 comme à 40. Eh bien, n'est-ce pas une preuve de foi et de confiance en Dieu et de fidélité envers Dieu, parce qu'il avait eu cette promesse, il a assumé les conséquences du choix du peuple, il a tourné 38 ans avec eux, mais il dit maintenant, je revendique ce que Dieu m'a promis. Et alors, il demande à avoir cet endroit où il y a les Anakim, ceux qui étaient très grands. Et qu'est-ce qu'il dit encore là ? Peut-être que l'Éternel sera avec moi et je les déposséderai comme l'Éternel l'a dit. Alors, ça nous rappelle le « si l'Éternel veut ». Est-ce que c'est du doute ? Il a attendu 45 ans. Mais si le plan de Dieu est encore un peu prorogé, alors il est prêt à l'accepter. Il a plus confiance en Dieu qu'en lui-même, où il n'a pas non plus d'exigence vis-à-vis de Dieu. Il a compris une certaine partie des choses et il a confiance que ça arrivera. Mais si ça doit être encore décalé, ce n'est pas un problème. Ça ne changera pas sa confiance en Dieu. Et là, il me semble qu'il montre aussi sa fidélité. Peut-être que l'Éternel sera avec moi. Et donc, il a conquis cette ville d'Hébron. Et l'histoire de Caleb ne s'arrête pas. Et je crois que pour nous, il y a une leçon. Il a été fidèle, il a eu ce qu'il a eu, ce qui a été promis. Et on pourrait se dire, ben voilà, c'est la fin de l'histoire. Mais il fait partie de ceux qui vont décider les choses. Ils ont réuni les anciens. Et les anciens, Caleb, Josué, c'était les plus anciens de tout le peuple là, à ce moment-là. Donc il n'y avait pas de... Ils faisaient partie pour qu'on établisse les villes de refuge. Josué. Et qu'est-ce qui se passe ? C'était Dieu qui l'avait demandé, hein, en nombre 35. Ça avait été clairement expliqué ce qu'ils devaient faire. Ils allaient choisir des villes pour les Lévites, pour qu'ils aient... non pas un héritage, mais des lieux pour habiter. Et puis, parmi ces villes pour les Lévites, il y aurait des villes de refuge où celui qui avait commis un homicide par erreur puisse bénéficier de la grâce de Dieu, puisque sous la loi, il n'y avait pas la grâce de manière aussi explicite. Mais Dieu avait prévu une provision de grâce. Eh bien, on a au verset 7 de Josué 20, « Et ils sanctifièrent Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, et Kiriath Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. » Caleb, il a attendu 45 ans pour voir accomplir cette promesse que Dieu avait faite. « Le lieu que tu avais foulé, je te le donnerai. » Et il l'avait conquis, et il l'avait eu. Peut-être, peut-être, l'Éternel m'a donné. Et là, il dit, ben, ce que l'Éternel m'a donné, j'ai découvert la grâce de Dieu, je veux qu'elle soit partagée. Et je le mets comme ville de refuge. Et bien au-delà, c'est que cette ville de refuge, elle fait partie de l'héritage des Lévites. Et donc, non seulement il a conscience de la dimension de la grâce de Dieu, mais en plus, il a conscience de la nécessité de rendre à Dieu l'adoration, puisque à travers les Lévites, c'est comme s'il donnait une part d'adoration à Dieu. Un Dieu qui ne veut pas des sacrifices qui ne coûtent rien. Cette ville, elle lui a coûté 45 ans d'attente, d'espérance, et il la donne à ceux qui vont porter l'adoration pour le peuple. Alors, je crois que là, c'est un témoignage pour nous de la fidélité d'un serviteur de Dieu qui a confiance dans son Dieu et qui a conscience de la grâce de son Dieu et qui a conscience de ce qu'il doit rendre à son Dieu. Et en ça, Caleb, je pense, est un très bon modèle. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que Caleb, il fait appel à des gens pour conquérir la ville de Kiriath Sefer. Et puis, il y a sa fille qui va devenir la femme d'Othniel. Et là, on voit que pendant 45 ans, il ne s'est pas lamenté en disant « Oh là là, les autres, ils ont pris une décision et là... » Non, à sa fille, il a transmis les mêmes enseignements. Et sa fille, « Ah, tu me donnes une terre. » Alors, c'est dans Juges 1. « Tu me donnes une terre, mais c'est une terre du midi et moi, j'ai besoin des sources. » Et elle va avoir les sources du haut et les sources du bas. Je ne vais pas faire une méditation là-dessus, vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Mais il a transmis. Et là, on revient à Abraham. Parce que je sais, il transmettra à ses enfants. La fidélité, c'est aussi quelque chose qui peut se transmettre de génération en génération. Et son gendre, ou son frère jeune, Othniel, il va devenir aussi un des juges. Voilà, donc ça va continuer. Et en 1 Chronique, cette histoire, elle nous est re-racontée. 1 Chronique 6, il est rappelé que, eh bien, Hébron, voilà, ça avait été une ville pour les Lévites, mais le reste est pour elle, l'environnement reste à Caleb, puisque c'était son héritage. Voilà, donc c'est quelque chose que Dieu n'oublie pas. Par contre, ce n'est pas une garantie tout risque pour les générations qui viennent. C'est à vous de vous en saisir. Ce n'est pas vos parents qui vous transmettent la fidélité, c'est vous qui pouvez devenir fidèle. Et dans la descendance de Caleb, eh bien, on a le premier mari d'Abigaïl, excusez-moi le nom m'échappe, Nabal, qui est un descendant de Caleb. Et lui, il a tout oublié de son ascendant. Voilà, donc c'est pas une garantie pour lui. Par contre, nous, on a à transmettre cette fidélité. Dorcas, elle n'a pas été appelée fidèle non plus. Pourtant, au moment où elle meurt, il me semble que sa fidélité ressort. Elle était pleine de bonnes œuvres et d'aumônes qu'elle faisait. Ça s'arrête. Et là, eh bien, il y a toutes les veuves qui viennent auprès de l'apôtre Pierre. Elles viennent, vinrent auprès de lui en pleurant et en montrant les robes, les vêtements, toutes les choses que Dorcas avait faites pendant qu'elle était avec elle. Voilà, la fidélité dans le service, c'est pas non plus des choses immenses. Et voilà, c'est venir en aide à ceux qui en ont besoin sous des formes très très pratiques. Et donc, il me semble que Dorcas aussi, là on voit, elle est ressuscitée et elle peut continuer ce service parce qu'elle l'avait accompli fidèlement. Enfin, je vais terminer avec un exemple. Aquilas et Priscilla non plus ne sont pas marqués comme fidèles. Pourtant, à leur première rencontre avec l'apôtre Paul, eh bien, ils vont commencer à travailler avec lui. Alors, de manière très matérielle, hein, faire des tentes, c'était leur métier. Mais ils vont aussi mettre en œuvre ce qu'ils auront. Ils étaient certainement déjà convertis, puisqu'ils avaient été chassés en tant que juifs de Rome. Ils arrivent à Corinthe, mais vraisemblablement, on pense qu'ils étaient déjà, ils connaissaient déjà le Seigneur, et donc, tout naturellement, ils rentrent en communication avec l'apôtre Paul. Et ensuite, ils vont partir avec lui, ils firent voir vers la Syrie, c'est en Apocalypse, en Actes des Apôtres au chapitre 18, et puis ils vont s'installer à Éphèse. Et là, il va y avoir Apollos qui vient, et ils le prennent, et Aquilas et Priscilla, l'ayant entendu, le prirent, et lui expliquèrent plus exactement la voie de Dieu. Ils ne connaissaient que le baptême de Jean, Apollos, et eux, ils vont l'aider à progresser, à grandir. Et un peu plus loin, eh bien, dans l'épître aux Romains, on voit que donc ils sont à Éphèse, ils ont été, et puis ils sont à Corinthe, excusez-moi, quand il y a Apollos. Et après, on voit dans la lettre aux Romains, ils sont certainement retournés à Rome, et l'apôtre Paul parle d'eux, de salutation, et il leur dit, il donne un beau témoignage. Pour ma vie, ils ont exposé leur propre cours. Voilà, ils se sont mis en péril pour l'apôtre Paul, pour l'avancement de l'Évangile. Et en même temps, eh bien, saluer l'assemblée qui se réunit chez eux. Donc ils ont aussi leur maison ouverte pour que eh bien, des frères et sœurs puissent rendre l'adoration à Dieu, puissent se retrouver, grandir dans la foi. Alors, là aussi, il y a une autre leçon, c'est que un peu plus loin, dans l'Épître aux Corinthiens, eh bien, on voit que les assemblées d'Asie vous saluent, donc l'apôtre Paul, il écrit d'Éphèse, à Corinthe, et Aquilas et Priscilla, avec l'assemblée qui se réunit dans leur maison, vous saluent affectueusement dans le Seigneur. Donc, ils ont déménagé, ils ont changé, c'est pas... En plus, à cette époque, hein, passer d'Éphèse à Rome ou Rome à Éphèse, on ne prend pas un conteneur et puis avec des déménageurs qui s'occupent de tout. Hein, c'est un changement complet de vie, on repart à zéro. Eh bien, aux deux endroits, ils ont eu à cœur d'accueillir l'assemblée chez eux. Et à la fin, dans la dernière lettre de l'apôtre Paul de Timothée, il y a encore des salutations pour Aquilas et Priscilla. Voilà, donc... Il me semble qu'à travers ces quelques fragments qu'on a, ces six versets qui nous parlent de ce couple, on voit qu'ils ont été fidèles dans leur service et ils sont restés fidèles l'un à l'autre puisqu'ils sont toujours cités ensemble. Et donc, ça aboutit à la deuxième partie, enfin la troisième partie sur la fidélité dans le couple. C'est vrai que c'est un sujet qui nous touche parce que on a un monde qui s'attaque à ses fondements. Hein, la France, bon, c'était le 14e pays au monde avec le mariage pour tous. Voilà, on essaye de changer les choses. Mais ça fait très longtemps que le couple, c'est quelque chose qui était aussi en façade. On en parlait il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un. Autant des rois de France, avant la Révolution, les rois, ils avaient tous des maîtresses. Donc la fidélité dans le couple, ce n'était pas un problème pour eux. Hein. Pas, en tout cas, ce n'était pas un sujet sur lequel ils s'appuyaient pour montrer leur fidélité envers Dieu. Et puis, avant la guerre 14, c'était statutaire que les gens un peu aisés, les hommes un peu aisés et des maîtresses. Ils en avaient même des officiels. Voilà, et... Bon, voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin, mais plus on s'approche de nous, plus on sait que la mémoire nous reste. Alors, on pourrait penser fidélité dans le couple, à Hébreux 13, que le mariage soit tenu en honneur à tous égards et le lit sans souillure. Et puis en disant, j'ai que ma femme, donc je reste, tout est bon. Le Seigneur Jésus, il met le doigt sur un peu plus loin. Vous avez ouï dire qu'il a été dit « Tu ne commettras pas adultère », mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter ou considérer qu'elle pourrait devenir sa femme dans le sens de la volonté de l'avoir, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et donc ça touche nos pensées, ça touche la façon dont on regarde les choses. Et donc ça va au-delà de l'acte même. Et on est dans un monde qui... galvaude de plus en plus les images qu'on a pour les publicités, même pour des produits qui nous paraissent communs, souvent font appel à des suggestions sexuelles dans les deux sens d'ailleurs. C'est pas que les femmes, mais même les hommes deviennent des objets, entre guillemets, voilà. Enfin, je dis pas même dans le sens où... Mais on est dans une société qui progresse. Et donc... La fidélité dans le couple peut être mise à mal, ça, alors que c'est aussi un des fondements. Et ce que je voulais dire aussi qu'on pourrait transmettre à nos plus jeunes, c'est que la fidélité dans le couple, ça commence aussi au moment des fiançailles. Et l'apôtre Paul, il fait ce parallèle comme le Seigneur, comme dans l'enseignement qu'il nous donne sur l'Église, il lui parle quant au Christ et à l'Assemblée, donc pour cette image du couple. Car je suis là jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. Voilà, donc les fiançailles sont aussi un moment où on doit être prudent, mais où on doit prendre conscience que cette fidélité se construit. Et dans le prophète Osée, on a aussi ce verset, « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi en justice, en jugement et en bonté et en miséricorde. Je te fiancerai à moi en vérité et tu connaîtras l'Éternel. » Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel Dieu compte beaucoup. Et même, c'est sa volonté. Et c'est même avant les fiançailles. car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté. Alors, on pourrait avoir une idée grandiose des choses. Juste après, c'est quoi ? Que vous vous absteniez de la fornication. Ça devient très terre à terre. Votre sainteté, que vous absteniez de la fornication. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. C'est ici la volonté de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose de simple. Et je le dis pour les quelques jeunes qui sont là, parce qu'on sait qu'on est dans un monde qui est de plus en plus provocateur à ce sujet-là. Quand j'étais, j'avais 18 ans, même pas 17, notre prof de français, elle nous a sorti « Si vous êtes vierge à votre âge, vous êtes anormal. » C'était il y a longtemps. Maintenant, c'est plus les profs qui disent ça un peu révolutionnaire, mais c'est le monde entier. Et dès l'école maternelle, on commence à cultiver ces choses-là. Un petit amoureux, une petite amoureuse. Et c'est difficile à porter, des fois. Alors, l'apôtre Pierre, il nous donne un verset. « Que ceux donc qui souffrent selon la volonté de Dieu, c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes en faisant le bien, et je crois que ça pèse, à un fidèle créateur. » On a un Dieu fidèle, qui a conscience des difficultés, qui nous parle de la fidélité dans le couple, qui nous appelle, qui nous dit quelle est sa volonté. Alors c'est un des aspects, hein. La volonté de Dieu, votre sainteté. Eh bien ce Dieu, il peut nous aider. Et l'apôtre Paul témoigne de cela en 1 Corinthiens 7. Qu'est-ce qu'il dit ? Or pour ce qui est de ceux qui sont vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur. Mais je donne mon opinion, mon expérience. Comme ayant reçu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. Comme ayant reçu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. Pour l'apôtre Paul, ce n'était pas non plus aussi simple, certainement à cette époque-là. Mais la miséricorde du Seigneur lui a permis d'être fidèle. Et la miséricorde du Seigneur est la même maintenant. Il peut nous aider à nous conserver purs jusqu'au mariage. Et si on ne se marie pas, jusqu'à la fin de notre vie pour le servir. Et je crois que ça, c'est fondamental aussi à connaître. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai parlé avec un couple, et puis ils étaient un peu inquiets parce que, voilà, une fille célibataire voilà, avait commencé des échanges avec un jeune homme non chrétien. Et ils ne savaient pas. On dit comment on a manqué un petit peu peut-être comment faire pour et on parlait de ça et il me semble qu'il y a aussi un verset qu'on doit remettre en évidence dans les proverbes toujours au chapitre 24 et au verset 7. Dieu nous donne un ordre, enfin un ordre, non pas un ordre, un commandement, mais des états. Il nous donne des états. Prépare ton ouvrage au dehors. Quand je suis enfant, je vais aller à l'école et ça va m'aider à préparer mon ouvrage au dehors. Mais ça va aussi m'aider à faire l'étape suivante, mais en état touchant, si j'apprends à lire, à raisonner, à comprendre, et ben pour lire la Bible, pour la comprendre, pour, c'est quand même très utile. Autrement, je ne reçois que ce que les autres vont me transmettre. Donc, prépare ton ouvrage au dehors, ça peut m'aider pour la suite. Mais en état ton champ. Travaille avec le Seigneur. C'est lui qui va semer, mais et il prépare la terre. Mais toi, voilà. Mets en état ton champ. Et après, bâtis ta maison. On est dans une société qui change les choses, mais nous, Dieu nous donne une certaine séquence. Alors, pour terminer, en conclusion, cette fidélité, eh bien, c'est un caractère du fruit de l'esprit qu'on retrouve. Et quand on a la liste des caractères du fruit d'esprit, on a la fidélité, mais juste avant, on a les œuvres de la chair. Et il me semble que, eh bien, si on regarde ce caractère de la fidélité, ça permet de répondre à deux œuvres de la chair qu'on a dans la liste, qui sont les divisions et les sectes. La fidélité envers mes frères et sœurs, envers mes relations, ça va m'aider à combattre entre guillemets, les divisions et les sectes. C'est deux œuvres de la chair. Voilà. Donc la fidélité, c'est un caractère du fruit de l'esprit. On l'a déjà dit avec Lucien, ça s'inscrit dans le temps. On est dans une société où on est sur le coup médiatique, sur des petits blogs où on met un petit message et puis on espère avoir beaucoup de suiveurs. Ça s'inscrit dans le temps. On a vu que tous les exemples que Dieu nous a donnés, c'est des gens dont la fidélité s'est révélée avec le temps. Et pour nous, ça ne change pas. Et donc, l'apôtre Paul, eh bien, nous montre aussi cela. Il avait un objectif qui était d'achever sa course. Il le dit en acte 20. « Je ne fais aucun cas de ma vie, ni ne la tiens pour précieuse, à moi-même, pourvu que j'achève ma course et le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. » Et puis, à la fin de sa course, en 2 Timothée, qu'est-ce qu'il peut dire ? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La fidélité, ça s'inscrit dans le temps, c'est l'œuvre d'une vie. Et le Seigneur nous la nomme aussi parmi les choses importantes de la loi, avec le jugement et la miséricorde. Vous donnez la dîme de la nette et du cumin, et vous avez oublié les choses plus grandes de la loi, le jugement, la miséricorde et la fidélité. Alors ne nous trompons pas dans cet ordre-là aussi. Le jugement, c'est pour moi, devant Dieu. La miséricorde, c'est pour mes frères et sœurs. Et la fidélité, c'est vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de mes frères et sœurs. Et n'inversons pas le jugement pour les autres, la miséricorde pour moi. Et le jugement pour les autres, la miséricorde pour moi, et puis la fidélité quand j'y pense. Et ce caractère, en fait, c'est une qualité requise pour les fonctions d'administrateur. C'est l'apôtre Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens 4, verset 12. C'est quelque chose qui est utile pour les parents et les enfants. On l'a dans celui qui aspire surveillant, et bien des enfants fidèles, en titre 1, verset 6. Mais c'est bijectif, hein, parce que les parents, ils transmettent une éducation pour la fidélité, mais il faut aussi que les enfants soient fidèles. Donc c'est pour les deux, donc c'est une qualité requise pour les parents et pour les enfants. C'est une qualité requise aussi pour les enfants adultes, pour les petits-enfants, voire pour les arrière-petits-enfants maintenant dans notre société, parce qu'on est de plus en plus âgés. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de montrer envers ceux qu'on a reçus, les soins qu'on a reçus de eux. Donc dans 1 Timothée au chapitre 5 et au verset 16. Rendre à ceux dont on descend les soins qu'on en a reçus. Ça, c'est une preuve aussi de la fidélité. Et puis, entre époux et épouse, eh bien, c'est quelque chose dont on sait que c'est important et utile. Et l'apôtre Pierre le souligne en disant « Comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie. » Ensemble héritiers de la grâce de la vie. Et on a beaucoup parlé de cette fonction d'intercesseur pour que vos prières ne soient pas interrompues. Voilà, je voulais terminer. Alors, juste une chose. C'est vrai que, excuse-moi Lucien, j'ai oublié, c'était pas sur la table. Mais on a la fidélité de Dieu. Et puis l'anneau qui est le nôtre, ben, des fois il n'est pas très solide, il peut se tordre. Alors il y a des fois, Dieu a cassé son alliance avec le peuple. Il ne cassera pas son alliance avec nous. Mais la nôtre peut se déformer. Et en tout cas, on peut se tourner vers le Seigneur qui nous aide à rester fidèles jusqu'au bout. Peut-être en lien avec la conclusion que je viens de faire, on pourrait chanter le cantique 150 dans les reflets.
Amen.
Oui, notre Dieu, notre Père, ta fidélité dure de génération en génération. Elle atteint jusqu'aux nues, nous l'avons rappelé. Et quand tu places ce sujet devant nous, nous comprenons combien il nous dépasse, combien il nous submerge.